prendre un verre entre amis, rien de mieux que le bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Nous sommes au 1494 Ontario, aux stations Hausse. Hélène.
Jean-Michel.
Ah.
Ça fait du bien.
C'est fantastique. Et aussi, public.
Ah.
Ah. Ah. C'est vraiment, vraiment agréable de vous voir ici aujourd'hui.
Oui, malgré la météo, je vous remercie. Et je remercie aussi de votre patience, vraiment.
Hey, Hélène! Hey! OK. Donc, et aussi pour la patience pour les 45 minutes d'attente, en fait, la technique étant notre démon personnel. Pour les... En fait, est-ce que tu me permets un peu d'expliquer c'est quoi ma fonction aujourd'hui dans l'émission?
Oui.
OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, comme vous l'avez probablement tous vécu lors du décès de l'homme que nous célébrons ce soir, il y a eu une espèce de déferlante d'affection, certes, qui était très méritée, mais aussi une espèce de déferlance par rapport à l'expertise et l'érudition sur le personnage. C'est comme si, tout d'un coup, Bowie était l'artiste que tout le monde écoutait en continu depuis tout le temps. Et essentiellement, cette déferlante-là, qui est, certes, extrêmement émotive et très, très, très touchante, moi, en sachant qu'on était pour préparer l'émission, ben en fait, je ne savais pas au moment de son décès, mais on a préparé l'émission pas loin après.
Le 10 janvier au soir, l'idée même.
Quelle Hélène! Ça a fait en sorte que je me suis dit, je vais conserver mon statut de naïf. Je vais conserver mon statut de straight man. Je vais jouer le fool pour la soirée essentiellement. Donc, le gars qui n'a pas été faire les recherches pour l'émission. Donc, celui qui va poser les questions qui doivent être posées, si elles doivent être posées. Et aussi celui qui, potentiellement, va être le plus émerveillé par les présentations ce soir.
C'est ça, tu gardes en fait ton cœur d'enfant.
Ouais, exactement.
C'est super joli.
Hold, held in the arms of the Goblin King. Parce que, à ce qui a trait de labyrinthe, je pourrais jamais. Ça, malheureusement, c'est pas dans mes angles morts. Je connais fantastiquement bien labyrinthe, notamment à cause de mes deux enfants. Donc,
oui.
Ça va très bien. Bonsoir, Hélène.
Bonsoir.
Toi, tu. Ça en fait la fonction de l'héritique. En fait, tu es la papesse, la
je vais
sage.
Essayer, je vais essayer.
La personne qui rentre avec l'information et la science incarnée. Je pense que tu veux nous présenter.
J'ai pas appris par cœur toute la vie de David Bowie ce soir, donc je vais quand même poser des questions. Je vais quand même interrompre nos invités pour avoir des petites.
Des précisions.
Des précisions lorsqu'il y a besoin. Mais je suis une fan de David Bowie depuis mon secondaire, donc way back. Et ça me fait vraiment un grand plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur d'animer cette émission avec toi. Et pour moi, c'est quand David Bowie est mort, je pense qu'à la manière, de manière semblable à plusieurs d'entre vous, j'ai vraiment un gros pincement au cœur. J'ai même eu quelques larmes
ici aussi,
ouais, qui m'ont sont montées à mes yeux. Puis je me suis dit, je pense qu'à partir de maintenant, que dans ma vie, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être? Est-ce que je suis digne de Bowie? Est-ce que je suis digne d'être la fille de Bowie? Qu'est-ce que Bowie ferait? Est-ce que Bowie serait content de moi si je fais ça? C'est des questions que je me pose, sérieusement, le plus échangé.
C'est un.
What would Bowie do? Mais am I worthy of him? C'est des questions que je me pose depuis ça.
C'est un très beau calibre existentiel.
Oui,
j'ai l'impression de pouvoir se mesurer à ça, de dire si David, qui est maintenant dans l'éther, dans le cosmos, et qui surveille de façon microcosmique et unicellulaire sur nous tous, est-ce que cette petite cellule de Bowie, parce qu'il y en a peut-être une dans la salle, est-ce qu'on aurait son approbation? Je trouve ça vraiment cool.
Je sais pas si vous vous souvenez, le soir du 10 janvier, la lune, on voyait bien la lune, faisait quand même assez froid, et la lune était vraiment c'est un petit croissant absolument très très mince. Et c'était « This mysterious moonlight ». On va commencer, on va faire une émission spéciale aujourd'hui parce que aussi on a un invité musical qui va nous faire quatre chansons. Son nom c'est Mathilde Laurier, on peut l'accueillir.
Merci.
On va commencer en chanson avec elle qui va nous prendre Space Oddity.
Oui, je veux juste dire avant de commencer, je vais faire 4 tunes ce soir, mais je suis vraiment consciente qu'un cover de Bowie ne sera jamais aussi bon que l'original. Sachez-le.
Thank you.
control to make it sound. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, Major Tom. Check in mission and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule. If you dare, this is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars are very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Going past 100,000 miles, I'm feeling very still. And I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. Ground control to Major Tom. You're safe, it's there. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? And I'm floating around my tin can, far above the moon. Planet Earth is here, and there's nothing I can do.
Academia points.
Donc, on va se faire une présentation, en fait, à cause
de l'ergonomie. C'est de l'ergonomie,
le design, l'espace. Quand on va présenter de l'homme, il va y avoir des projections aussi. Donc,
vous ne soyez pas distrait par le fait que le son et l'image proviennent de deux dimensions différentes et se rencontrent dans le monde.
Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir pour venir vous présenter mon idole de jeunesse. Comme je le disais plutôt à mes amis, ça fait un peu 20 ans finalement que je prépare ce moment. Parce que quand j'étais jeune, j'essayais de convaincre tout le monde que David Bowie était un grand homme qui avait fait une œuvre monumentale. Et j'ai décidé donc de commencer, si on peut commencer la présentation PowerPoint. Ah, on a des petits problèmes de lag technique, mais ça devrait commencer si peu. La citation que vous voyez à l'écran, « Ladies and gentlemen and others », c'est une phrase que Bowie a prononcée aux Grammys en 1975, alors qu'il présente le prix de la meilleure interprète R&B. Donc, il est invité à vous présenter ce prix. Et bien sûr, ça a fait beaucoup rire à l'époque, le fait de saluer donc les gentilles dames, les gentilshommes et tous les autres. Mais c'est tout y penser, 40 ans plus tard, on y est presque quand même. Hein. C'est rendu commun maintenant de dire il faut penser à tous ces gens qui ne cadrent pas dans les catégories que la société a créées. Et donc Bowie, dès le départ, a voulu reconnaître les gens qui ne se reconnaissent pas dans la société, dans le monde que les hommes ont construit, se sont construits.
Et quand on pense en 75 quand même.
C'est en 75, oui, tout à fait. Et ça fait beaucoup rire à l'époque.
Oui.
Et Bowie avait l'air très, très gelé pour être capable de dire cette phrase-là devant tout le monde à l'époque. Oui, et on va voir que la cocaïne, malheureusement, a été une partie assez importante du fantasme de puissance qu'on appelle Ziggy Stardust aujourd'hui. Et donc,
pour
créer ce personnage de demi-dieu, ça a pris beaucoup de culot, mais ça a pris aussi malheureusement beaucoup de drogue.
Cocaine is a hell of a drug.
Oui, exactement. Par contre, je voudrais commencer, non pas avec ce moment de télévision-là, mais avec un autre moment de télévision qui est mon moment de télévision préféré. En 1977, Bowie va à l'émission Dinah Shore aux États-Unis. C'est l'équivalent de Marina Orsini en fin d'après-midi. Et il va avec Iggy Pop, son best buddy Iggy Pop d'alors. Donc, ils vont parler de leur musique. Ils viennent de créer des albums ensemble et ils viennent parler donc de cette expérience.
In a bar, yeah. You sure? We were both unrecognized at the time, so we had a lot to,
in common.
I'd never seen Jimmy, really, but I'd heard some of his albums, and it sounded like, I don't know, nihilistic rock. It was nihilism.
But
fascinates me.
What
I love nihilism.
David Bowie.
Alors, David Bowie vient de dire à la télévision américaine en fin d'après-midi, « J'adore le nihilisme. Ce que je préfère dans la vie, c'est le nihilisme. »
Avec Iggy Pop, avec la petite tasse de thé, là.
Tout à fait. Et donc, on ne va pas se lancer dans l'histoire du nihilisme ici, mais globalement, on parle d'un rejet du monde. On parle d'un rejet des valeurs du monde tel que les hommes l'ont construit jusqu'à maintenant. Et quand vous êtes quelqu'un de différent, vous avez deux choix dans la vie. Soit vous pouvez intérioriser une haine de vous-même, et bon, Dieu sait que la haine de soi est une industrie florissante, ou vous pouvez rejeter le monde alentour. Donc, au lieu de diriger la violence vers vous, vous pouvez la diriger vers le monde autour. Et Iggy Pop, en tant que proto-punk, incarne très bien ce rejet du monde environnant. C'est un gros fuck you généralisé, et il le montre très, très bien. Et donc, c'est très paradoxal d'aller présenter ça à la télévision américaine en heure de grande écoute, devant les pauvres petites familles qui ne s'attendaient pas à ce moment. Et on a retiré ce moment des rediffusions ultérieures de l'émission, bien entendu, encore aujourd'hui sur YouTube. C'est pas tous les versions de cette entrevue où vous verrez cette affirmation. Et si on s'y plonge un peu dans l'œuvre de Bowie, le nihilisme est omniprésent. Je ne le définirais pas comme un nihiliste, mais il est fasciné par les gens qui se situent à la marge au point de rejeter complètement l'univers autour d'eux. Et si on y pense, donc, des titres comme « The Man Who Sold the World », déjà, ça dit quelque chose de cet ordre-là, « L'homme qui est prêt à vendre le monde », tout l'album « Outside » a été créé avec cette exploration donc de la désintégration morale et physique de l'homme et de voir à quel point ça peut être beau. Il y a même une chanson sur cet album qui s'intitule « The Voyeur of Utter Destruction as Beauty ». Bowie se pose la question, est-ce que de la beauté dans le rejet complet, dans la destruction de ce que l'homme a créé, les sociétés, les valeurs qu'on connaît actuellement? Très récemment, et j'essaie de survoler rapidement ici le thème à travers l'œuvre de Bowie, il y a ce vidéo pour Valentine's Day, qui est une chanson sur son avant-dernier album, The Next Day. Qui a déjà vu le vidéo Valentine's Day? Bon, tant mieux, on va faire une petite expérience. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette image? Un fusil? On dirait que Bowie est en train de... On a une réponse déjà très rapidement ici. C'est effectivement une évocation de Charlton Heston qui tient un fusil au bout de ses mains devant la NRA, la National Rifle Association.
Ah, c'est le « Out of my cold dead hands », là.
Oui, exactement.
Le speech.
Exactement. Et ce qu'on voit ici, c'est Bowie qui est dans une usine désaffectée qui semble être sur le point d'ouvrir le feu, n'est-ce pas? C'est ce que ça évoque immédiatement comme image. Et c'est un superbe vidéoclip. Désolé, la police de caractère a changé durant le transfert de PowerPoint, mais si on lit les paroles, ça s'appelle Valentine's Day, donc personne ne soupçonnerait que c'est une chanson qui parle de cette marginalité-là, le fait de se ramasser à détester le monde au point de vouloir l'annihiler, le tuer. Et donc, Valentine told me who's to go, the teacher and the football star. C'est un peu crypté, mais je pense que vous comprenez bien l'évocation d'une violence au niveau de l'école. Teddy and Judy down, Valentine sees it all, he's got something to say, it's Valentine's Day. L'antithèse, le contrepoint entre Valentine's Day et la tuerie dans une liste scolaire, c'est un procédé, cette antithèse-là, ce contrepoint que Bowie chérit particulièrement dans plusieurs de ses chansons. Il va faire une sorte de synergie entre les opposés, et donc l'évocation du jour de la Saint-Valentin avec une tuerie. Mais c'est pas gratuit. L'anecdote qui a mené à cette chanson, c'est un garçon qui s'appelait Valentin qui a ouvert le feu dans un milieu scolaire. Donc, Bowie fait le pari que la pop peut accommoder des sujets aussi difficiles que ça. Et encore une fois, c'est une expression de nihilisme absolu. Mais si on regarde le clip, on comprend bien la position d'artiste de David Bowie. Donc, si vous le voyez en train de tenir la guitare, qui ressemble à un fusil, n'est-ce pas? Au moment où il va abaisser sa main, au lieu de tirer, au lieu d'ouvrir le feu, il commence à jouer de la musique et à chanter. Pour Bowie, la fonction de l'art, c'est de pouvoir exprimer ses émotions difficiles, ses réalités affectives sombres, douloureuses, complexes, très, très, très complexes. Mais donc, Bowie veut utiliser la musique et l'art pour se raccrocher lui-même, parce que sans doute qu'il y a une part de nihilisme qui l'habite, de rejet de cet univers trop normatif. Il commence sa carrière en rejetant fortement les modèles normatifs qui sont autour de lui. Et il voit l'art comme une façon aussi de redonner un peu de l'espoir ou de raccrocher ou d'exprimer ses émotions très, très, très sombres à l'intérieur de l'autre. Ces paroles, je pense que tout le monde ici les connaît, les connaissent. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Hein, déjà, on a ici l'évocation de quelqu'un qui se sent différent, une altérité, quelqu'un qui se sent rejeté par son nid familial. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Hélène, tu as un commentaire?
Non, c'est bon, je parlais à Rachel.
D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle va aller au cinéma, elle va essayer de se reconnaître au cinéma, elle va essayer de trouver une trace de son altérité quelque part, elle va essayer de se reconnaître dans le monde autour d'elle. Mais elle ne se reconnaît pas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut chercher plus loin, il faut chercher plus haut. Et je pense que dans ce mouvement de Zibi, qui tourne le regard vers le ciel et qui s'écrit « Est-ce qu'il y a de la vie quelque part sur Mars? » Il est en train de dire, est-ce qu'une vie quelque part dans cet univers qui me ressemble? Est-ce que, malgré mon altérité, je peux me raccrocher quelque part dans cet univers? Is there life on Mars? Tout l'imaginaire cosmique de David Bowie, je pense, est une simple métaphore pour la quête de vouloir se raccrocher quand on se sent différent, pour ne pas justement verser dans le nihilisme, mais pour essayer de réinventer un univers différent à partir de sources idéales qu'on ne connaît pas véritablement encore. Et Dieu sait que le personnage de Ziggy Stardust créé par David Bowie va nous faire décoller vers cet univers différent pour justement tous les gens qui sont esselés, qui se sentent aliénés par le monde qui les entoure. Vous voyez ici un être parfaitement androgyne dans un habit créé par Kenzai Yamamoto, un designer de mode japonais assez audacieux. On dirait qu'il est sur le point de décoller. Il est d'une beauté sublime. Bien sûr, et ce sont des photos prises par Mikrok que vous voyez ici à l'écran, c'est très difficile d'imaginer ce que Ziggy Stardust représentait à l'époque. Mais clairement, c'est un être androgyne. Moi, c'est quelqu'un qui m'a appris qu'il y a de la beauté dans la différence et qu'il y a de la beauté dans ma différence aussi. Et je pense que c'était très audacieux pour un personnage pop de cette envergure de s'afficher comme étant androgyne. Il s'est déclaré homosexuel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas important. L'important, c'est qu'il est prêt à dire publiquement qu'il a une sexualité différente. Et à s'afficher donc avec une coupe de cheveux très particulière, avec du maquillage qu'il a fait lui-même. David Bowie s'inspire d'un paquet de trucs pour créer Ziggy Stardust. Ici, on voit une évocation du théâtre Kabuki, non seulement dans la coupe de cheveux, mais dans les habits de Kenzai Yamamoto aussi. Dans un film récent je saute un petit peu calme ici, mais vous allez voir, il y a un lien, de Harry Pollman, donc de Congress. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu The Congress? Donc, c'est avec Robin Wright Penn. C'est un film de science-fiction où les êtres humains développent une technologie pour s'évader parfaitement. On peut numériser les êtres humains et on développe aussi des drogues pour s'échapper justement de cet univers trop morne, trop normatif. Et dans cet univers, les gens peuvent être absolument qui ils veulent. Ils peuvent choisir leur avatar. Ils peuvent se présenter aux autres de la manière idéale
dans lequel il se projette. Et on voit donc ici le personnage principal au centre qui navigue entre tous ces personnages qui se représentent à travers des visions fantasmées d'eux-mêmes. On voit d'un côté Jésus-Christ et de l'autre côté Ziggy Stardust. Et c'est au fond un peu la même chose. Et c'est ce que je vais tenter de démontrer avec quelques photos parce que Ziggy Stardust a une place tellement monumentale dans la culture actuellement, une espèce de néo-religiosité de cette icône pop. Les gens l'adulent. Il y a, selon moi, Ziggy Stardust est le plus grand des super-héros. En fait, tous les autres lui arrivent à la cheville. Et son super pouvoir, c'est le gender bending. C'est l'ultime rebelle, n'est-ce pas? C'est un Pokémon surpuissant, apparemment, je ne le savais pas, mais il y a des gens sur Internet qui ont réussi à faire le lien. Et c'est aussi donc le compagnon de nos enfants idéal, quand on y pense, n'est-ce pas? Moi, j'achèterais cette poupée à mon enfant. C'est la reine de toutes les reines. C'est Banksy ici qui, pour le jubilé de la reine, a dessiné cette charmante dame avec l'éclair qui symbolise Ziggy Stardust, bien sûr. Très récemment, Ziggy Stardust a complété son ascension céleste à travers son avatar de Chris Hadfield, donc le cosmonaute canadien, qui a été dans la station spatiale, qui a repris une de ses chansons.
Oui, donc, c'est une très belle reprise.
Très belle reprise. Et donc, Ziggy s'est rapproché un peu plus des étoiles à ce moment-là. Et tout récemment, vous le savez sans doute, bien, il a complété cette ascension céleste parce que le jour de sa mort, on a décrété la constellation Bowie. Pas très loin de Mars, d'ailleurs, de Mars.
Voilà où la naïveté servait, c'est extraordinaire.
Voilà.
J'avais aucune idée.
Non, mais c'est vrai, quand tu as écrit ça sur l'événement Facebook, tu as dit, oui, il y a vraiment, il est au firmament. Il est littéralement au firmament.
En fait, moi, ça. Tout ce que tu viens de nommer, le petit compagnon pour enfants, le Pokémon, l'avatar néo-religieux, ça parle aussi de ce que je parlais tout à l'heure, la marque, le brand Bowie, qui est le super créateur original de la musique populaire.
Tout à fait, et ce signe-là, donc cet éclair, est devenu une partie de cette marque-là. On voit comment elle a été appliquée sur un paquet de produits, et tes boucles d'oreilles aussi. Donc,
oui, on parle des boucles d'oreilles.
C'est une constellation, ça. Littéralement, oui. ils ont consacré officiellement,
tout à fait.
En constellation, c'est extraordinaire.
Tout à fait. Il a complété son ascension firmament. Ziggy Stardust.
Je viens de l'apprendre.
Mais donc, en première partie, je vais présenter The Rise of Ziggy Stardust. On a parlé de cette première ascension d'une première étoile. À la toute fin, j'aimerais revenir pour parler avec vous de l'ascension d'une deuxième étoile qui est un peu plus trouble, Black Star. Et donc, moi, je vais revenir à la toute fin. On va essayer de comprendre le sens de Black Star.
Oui, donc, Carl était la première partie et ce sera aussi la dernière partie tout à l'heure. Merci beaucoup, Carl, pour cette première partie.
Merci à vous.
Il y a un truc qui est extraordinaire dans ce que tu as dit, Carl, que je trouve qui est tellement une évidence, mais il faut vraiment prendre la personne, ben, notamment moi comme personne, qui m'a mis par la main jusqu'à là. C'est cette idée-là que l'imaginaire de l'extraterrestre est continuellement entretenu par le fait qu'on veut rencontrer quelqu'un de différent. Les gens ont cette espérance qu'il y a une autre forme de vie dans l'espace qui va nous positionner en étant autre.
Oui, tout à fait.
Mais Ziggy Stardust, c'est littéralement l'inverse. C'est quelqu'un qui espère l'existence d'une vie extraterrestre pour savoir d'où il vient, pour confirmer son appartenance. Oui. C'est extraordinaire, c'est hallucinant, ça, d'être capable de construire une parapersonnalité au complet sur cette idée-là de comme, ben, vous êtes bien agréable, gens avec qui je prends le métro, mais je pense qu'il existe un peuple potentiel qui m'appellerait frère.
Tu le dis d'une manière très littérale. Moi, je le vois comme une métaphore de cette quête de est-ce que je peux me retrouver quelque part dans cet univers-là? Parce que sur la Terre, je n'en trouve pas du tout. C'est des modèles tellement normatifs, épouvantables, aliénants, alors que peut-être que quelque part dans l'espace, il y a ce peuple qui m'appartient, comme tu le nommes. Ziggy, ça marchait, je veux dire, il y a fait des millions de femmes qui se sont reconnues dans cette altérité-là. Et c'est ça qui est fascinant. Il a créé un nouveau modèle de beauté qui était très peu présent dans les médias populaires. Il se nourrit d'un paquet de trucs, là, mais pour l'amener à ce degré de monumentalité-là, c'est jamais vu. Et que des millions de gens se reconnaissent dans ce personnage androgyne qui n'est pas sympathique pour tout le monde, hein, qui est très provocateur, c'est un accomplissement.
C'est très beau, merci. Je vais aller le menu voir.
Notre deuxième invité ce soir, c'est Valérie Duhem. Valérie, la raison pour laquelle tu t'es invitée, j'ai pensé à toi, c'est que le 10 janvier au matin, tu as dit bon, David Bowie est décédé, c'est quoi votre chanson préférée de Bowie? Et là, tout le monde
sur Facebook,
bien entendu, là, tout le monde répondait une chanson et tu avais tout le temps un commentaire comme wow, cette chanson-là est extraordinaire, oui. Tous les matins, je l'entends. Donc, c'est comme vraiment une fan qui aime David Bowie et qui célèbre toute l'œuvre, même les chansons que, avec le recul, des fois on se dit, oh,
ouais,
ça, mais non, toi, t'étais tout le temps dans l'appréciation et j'ai pensé à toi. Et en plus, t'as fait un Bowie binge.
Oui.
Donc, tu t'es tapé toute la discographie de Bowie. Oui, avec deux reprises pour ça. Pour cette émission-ci, et c'est de ça dont tu veux nous parler.
Oui, quand David Bowie, bonjour tout le monde. Quand David Bowie est décédé, et moi j'ai mes chansons préférées, je suis une grande fan de Bowie, surtout du début des années 70, c'est la période que je connais mieux, mm-hmm. mais je suis quand même une grande fan de Bowie que j'ai connue à cause d'Iggy Pop. J'étais une fan d'Iggy Pop vraiment démesurée, et j'ai connu Bowie parce que j'ai appris très jeunes, qu'ils étaient allés, ils avaient décidé ensemble d'aller se désintoxiquer de la drogue à Berlin, dans les
autres
dans les, ouais, dans les années 70 ensemble. Et à ce moment-là, j'avais lu déjà peut-être 16 fois Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. Alors, je trouvais ça complètement absurde. Donc, David Bowie avait déjà vraiment beaucoup touché mon imaginaire. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et quand j'ai demandé aux gens sur Facebook, j'ai fait un appel, quelle est votre chanson préférée? Mais il y a plein de chansons dont je me rappelais moins, des chansons qui ne m'avaient pas marqué autant que je suis allée réécouter. Donc, j'ai décidé d'écouter Bowie en entier.
Le comptable, dans l'ordre.
Dans l'ordre. Donc, le comptable du bureau m'a dit « Wow, t'es bien craqué, trouve-toi une vie. » Et ça me semblait une vie à ce moment-là tout à fait appréciable d'écouter Bowie sans arrêt dans l'ordre.
Vraiment.
Donc, les années, à partir de 69 au milieu des années 70, c'est assez frais dans ma mémoire. J'écoute souvent Hunky Dory et un des albums que j'écoute le plus sur mon téléphone tous les jours. Donc, je connaissais aussi les grands hits des années 80, des années 90, un petit peu plusieurs albums, beaucoup moins. Donc, j'ai décidé de tout écouter. Les règlements sont les suivants. Je les écoute en ordre chronologique. 26 albums, on parle donc, parce que j'écoute pas les lives, j'écoute pas les best-of. J'ai fait deux écoutes entières de la discographie de David Bowie.
Donc on parle de 26 albums.
Deux
c'est
fois.
Considérable.
Ouais, c'est quand même du bon travail. On m'applaudit?
Oui.
Yeah! I do it for the pop and roll. Alors, j'écoute la première écoute, j'ai écouté vraiment l'album tel que paru à la base, les chansons qui étaient sur l'album à l'année de parution. À la deuxième écoute, j'ai ajouté les ajouts, l'édition spéciale Japon, deux chansons de plus. Oui, c'est ça. Là, j'ai rajouté, mais encore une fois, je me suis pas mêlée des albums live, je me suis pas mêlée des best-of, ni des rééditions, par exemple.
Ouais.
J'ai pas écouté la chanson Dancing in the Street avec Mick Jagger parce que ça se retrouve sur aucun des albums signés David Bowie. Donc, j'ai écouté vraiment juste sa discographie. Je n'ai pas pris de pause non plus. C'est-à-dire qu'à ma première écoute, je n'ai écouté que ça pendant environ une semaine. Je ne me suis pas permis d'autres musiques. Je ne me suis pas permis d'écouter rien d'autre. À la deuxième écoute, par contre, des fois, il faut se calmer aussi. Là, le soir, je me permets d'écouter d'autres choses. Donc, aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'à la première écoute, je l'ai écouté dans un moment d'émotion. J'avais beaucoup de peine. David Bowie était mort. Je disais beaucoup de choses sur Facebook aussi. « Hey, tout le monde se calme, c'est quand même pas Jean-Sébastien Bach. » Et moi, je pense que dans une certaine mesure, oui, dans une certaine mesure, ça se compare. Mais c'est un autre débat. Alors, c'était une écoute qui était très émotive. Deuxième écoute, je sortais d'une grosse phase de rap. Tu sais, il y avait Kendrick Lamar qui était sorti entre-temps, Kanye West, Corias, Brown, Dead Obies. J'étais vraiment la tête pleine de rap. Ce que j'ai trouvé extrêmement formidable, c'est que Black Star a été écrit par David Bowie alors qu'il écoutait beaucoup Kendrick Lamar. Donc là, je trouvais qu'il écoutait que To Pimp a Butterfly quand il écrivait Black Star de Kendrick Lamar dans son album précédent.
Mm-hmm.
Je trouvais que tout était dans tout. Je trouvais que on est dans ma tête à moi. Au moment de mes écoutes, David Bowie et moi, on est extrêmement connectés, on est les meilleurs amis du monde, on se comprend, on vit les mêmes affaires.
Ouais.
On se met dans mon état d'esprit. Mes impressions générales aussi, il faut savoir qu'à la première écoute, j'ai pas pris de notes. Deuxième écoute, j'avais parlé à Hélène entre-temps, donc j'ai réécouté pour vous en parler un petit peu. Donc là, j'ai pris des notes. Mes impressions générales, en écoutant comme ça dans l'ordre, j'écoutais un album et souvent, je devais retourner voir c'est quoi donc l'année de parution de cet album-là, tellement je trouvais que j'ai quand même une connaissance, je suis pas une musicologue, mais j'ai quand même une bonne connaissance de la musique, et je trouvais ça chaque fois, même si c'est des albums que j'ai déjà entendus, dans le contexte de l'année, je trouvais ça souvent vraiment surprenant. J'avais besoin de retourner, d'être comme « What? 75?
c'est fucking... Je retournais souvent voir... j'avais besoin une fois, deux fois dans le même album d'aller... Voyons, ça se peut pas que ça soit 75, cet album-là. Tellement il a été toujours précurseur. J'ai eu une année aussi un peu... Personnellement, j'ai eu une année de semi-marde. Et en écoutant les albums et en lisant un peu sur les albums, sa vie, c'est sa musique. Hein. On le voit au début qu'il est content, ensuite on le voit qu'il est mêlé, ensuite on le voit qu'il devient très déprimé, ensuite on l'entend devenir vraiment extrêmement stone, ensuite on l'entend devenir un peu fauné, on l'entend qu'il a envie de faire de l'argent, on l'entend qu'il s'efface, on l'entend qu'il revient, on l'entend qu'il assume ce qu'il a déjà fait, on l'entend qu'il réinvente d'autres choses. Je trouvais que c'est un processus dans la vie qui ressemble beaucoup à ce qu'on traverse. Puis moi, que ce soit un moment de ma vie un peu où je réfléchis à certaines choses, encore une fois, c'est mon meilleur ami. On vit les mêmes affaires. Ouais, vraiment, je me sentais vraiment comme ça. Donc, d'abord, le début étant ce qu'il est, c'est l'album David Bowie 1967, hein, un album qui est, selon moi, un troll. C'est un album qui est limite humoristique, selon moi. C'est la musique de Lutin. Ça fait un peu mal aux oreilles, mais en même temps, dans le temps, c'est pertinent. Dans l'époque où il était,
l'époque La Fake Gnome.
Oui, ouais, ouais, vraiment. C'est très, très drôle. Regardez aussi des...
C'est pas ça.
C'est pas ça. C'est très absurde comme album, mm-hmm. Je trouve, surtout en rétrospective, mais j'ai du plaisir à l'écouter, mais un peu... absurde. Ensuite, Space Oddity, étrangement, je dois vous avouer que moi, c'est un album que j'aime pas beaucoup, que j'ai jamais vraiment beaucoup aimé, d'ailleurs.
À part Space Oddity, c'est un autre grand succès tiré de cet album-là?
Non.
C'est juste Space Oddity.
Ouais, c'est juste Space Oddity. C'est un album que j'aime pas beaucoup. Cette chanson-là est une grande chanson, mais selon moi, beaucoup plus pour les paroles qu'autre chose. Et je me rends compte avec la rétrospective qu'avec l'oreille que j'ai maintenant, la sensibilité que j'ai maintenant, si David Bowie sortait l'album David Bowie suivi de Space Oddity, bien j'écouterais plus David Bowie ensuite. Je trouve ça intéressant parce qu'en rétrospective, il est arrivé tellement de choses ensuite. On arrive ensuite à The Man Who Sold the World, qui est un album magnifique. Selon moi, c'est la consécration. C'est un album qui s'écoute dans un tout, qui est magnifique. Une petite voix Ozzy Osbourne-esque que je trouve particulièrement charmante. Et c'est ce que je me suis rendu compte dans mon écoute. J'écoutais un album, j'entendais différentes musiques, j'entendais différents chanteurs, j'entendais des riffs de guitare que j'avais l'impression d'avoir entendu ensuite, jamais avant, on s'entend. On arrive à Hunky Dory ensuite, mon album préféré, celui que j'écoute sans arrêt depuis des années, toujours. Ziggy Stardust arrive dans nos vies autour des années 70, 1972, tout ça. The Rise and Fall of Ziggy Stardust.
Depuis 1967, il a fait tous ces albums-là.
Oui,
c'est vraiment une autre époque.
Hein? Non, on arrive en 72. Hein? C'est son cinquième en 72. Ouais. Ça va. C'est des albums courts, par exemple. Hein? Ouais. Une chance pour moi, parce qu'il fallait aussi que je vive ma vie pendant ce temps-là. The Rise and Fall of Ziggy Stardust, un album magnifique. Moi, personnellement, à ce moment-là, je suis encore en terrain familier. C'est des albums que j'ai beaucoup écoutés. C'est La Consécration. Aladdin Sane, un album formidable. Selon moi, c'est la victoire de Ziggy Stardust sur la morosité ambiante, un album encore magnifique. Ziggy meurt, ou presque, on arrive à Pin-Offs. Pin-Offs, c'est vraiment intéressant parce que c'est un album qui est quand même tôt, 73, dans sa discographie, mais c'est des covers. Mm-hmm. Être repris par David Bowie à ce moment-là, c'est sûr que c'est un artiste qui est extrêmement populaire, mais certainement, ça n'a pas la même importance qu'être repris par lui dans les années 90. Mais encore une fois, c'est un album qui est magnifique. C'est des chansons qui ont été choisies à la pièce, beaucoup hein, qui n'ont pas été enregistrées pour l'album Pin-Ups, mais qui avaient été choisies pour Pin-Ups, ont été enregistrées plus tard. Donc, ça vaut la peine d'écouter plus tard dans les années 90 parce qu'on reprend plusieurs de ces chansons-là qui ont été choisies dans cette foulée-là. Ensuite, Diamond Dogs, un album magnifique. J'écoute Diamond Dogs et j'entends TV on the Radio. Vous l'écouterez en vous disant ça, mais on est très indie des années 2000. Oui. La scène montréalaise, le début d'Arcade Fire et compagnie.
Diamond Dogs, c'était supposé être une comédie musicale.
Oui.
Ben, pas. Je pense pas que personne n'aurait vu, mais c'était supposé être un show sur scène, très inspiré. L'esthétisme allemand aussi.
Oui, vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup de l'œuvre de David Bowie qui est inspirée de projets théâtraux, de projets cinématographiques qui n'ont jamais vu le jour ou qui n'ont pas connu une vie à la hauteur de la musique que David Bowie a créée. Ensuite, on arrive à Young Americans. C'est sans doute l'album que j'ai le plus redécouvert. En fait, c'est un album que j'ai beaucoup aimé, que j'avais pas vraiment aimé dans mes premières écoutes. J'ai adoré ça. Et c'est, selon moi, c'est un album qui est un peu la diseuse de Bonne Aventure des années 80. Dans cet album-là, qui est sorti en 75, on entend plein de choses qui se préparent en musique. On entend un peu de disco, on entend un peu de new wave, on entend un peu de funk. Ça s'en vient. Bien entendu, c'est des courants qui existaient déjà. Là, je ne dis pas qu'il a tout inventé, mais il y a une façon d'imbriquer les genres musicaux ensemble sur cet album-là que je trouve qui est un... C'est un mélange d'épices des années 80, mais en 75.
Délicieux. Il y avait appelé ça d'ailleurs du Plastic Soul.
Plastic Soul. Pendant la tournée de Young Americans, apparaît le Thin White Duke, un personnage donc on se rappelle avec une plastique très...
émasquée. Anguleuse.
Oui, très entre deux guerres, noir et blanc et tout. Et ça, c'est le signal, en fait, de Bowie à son plus mal en termes de consommation de drogue. C'est un Bowie qui est à peine fonctionnel. Il enregistre ensuite Station to Station, un album dont il se rappelle même pas l'enregistrement parce qu'il était tellement sombre.
Moi, il y a une légende urbaine comme de quoi à l'époque, il ne buvait que du lait, il ne mangeait que des poivrons rouges.
Et
voilà.
de la cocaïne.
De la coke,
comme au mois de janvier. Ouais. Et c'est un album dont il se rappelle presque pas. Moi, j'adore le personnage du Thin White Duke, mais Station, je trouve que c'est un album assez plat. Il s'en rappelle pas, il était sombre, ça paraît un petit peu, personnellement. Mais je peux pas parler contre mon meilleur ami. On arrive ensuite dans la période de la trilogie berlinoise avec Brian Eno. C'est une période que je connaissais un peu, mais peu. Et à la première écoute, je l'ai appréciée. À la deuxième écoute, j'ai capoté ma vie. On parle de... J'écoute beaucoup de musique à mon travail, j'ai mes écouteurs, je travaille dans un milieu, dans un bureau qui n'est pas très traditionnel, je peux danser, je peux avoir un drôle de chapeau, on s'entend? Mais là, je capote ma vie, j'ai les bras dans les airs, j'ai écouté Low Heroes et Lodger en état de transe complète. La chanson Varsava, c'est de la pure folie qui est sur l'eau. C'est l'album, maintenant, quand on me demande mon album préféré de David Bowie en tant que personne qui s'est tapé les 26 deux fois, c'est celui que je nomme. C'est complètement fou. C'est mystique. C'est à la fois musicalement hyper accompli. Il m'est arrivé un moment... Tu sais, vous savez, quand vous êtes en voyage ou quand vous êtes au chalet, il y a un moment de plénitude où il y a de la musique, de la bonne chanson, une belle atmosphère, il y a un moment particulier. Et moi, j'en ai vécu un. En écoutant l'album Lodger, en écoutant en fait Heroes, j'ai vécu un moment de plénitude. Je suis au bureau, il y a des grandes fenêtres, il fait pas beau, il pleut, et j'écoute la chanson Moss Garden. Je ne sais pas qui parmi vous connaît Colin Stetson, saxophoniste montréalais. Dans cette période-là aussi, j'ai entendu beaucoup, beaucoup des sonorités qui font penser à lui, des trucs un peu décousus, un peu contre-temps, mais en même temps très mélodieux. C'est une période qui me fait penser beaucoup, beaucoup à ça. On arrive dans la période grand public. Hein,
Moi, j'ai ce qu'il appelle la période Reagan.
Ouais. C'est extrêmement bien dit. Hein. Scary Monsters 1980, c'est vraiment là, et je déclare les années 80 ouvertes, mesdames et messieurs. L'album Scary Monsters, c'est le moment dans mon écoute où je suis comme, ah, man, quel plan de merde, je voudrais avoir arrêté. Il y a comme un nouvel album de Fred Fortin, je peux-tu l'écouter, s'il vous plaît? T'sais, c'est le moment où ça ne me tente plus pas en tout. Par contre, il arrive une chose extraordinaire dans l'histoire de David Bowie et ben, plutôt, en fait, dans mon histoire personnelle. C'est à cette époque-là qu'il enregistre probablement ma chanson préférée ever, Under Pressure, avec Queen. Donc, c'est une période musicalement un peu troublante, mais il y a quand même cette chanson-là qui est, selon moi, la chose la plus fun qui a jamais existé.
Mais qui n'apparaît pas sur les albums de Bowie.
Mais donc, je n'ai pas écouté. dans le contexte.
Elle apparaît pas sur l'Adidas?
Non,
elle apparaît sur un album de Queen qui s'appelle Hot Space.
T'essayes pas de m'avoir.
Je sais, je
connais Queen par cœur.
Aucun album de Bowie. Je ne l'ai pas écouté, donc, mais je l'ai redonné sans arrêt. Ensuite, on arrive à Let's Dance, 1983, son plus grand succès. C'est un album qui est divertissant. La chanson Modern Love, les premières notes. Si t'as pas le goût de faire brûler ton chandail en écoutant ça, t'as pas de cœur. C'est vraiment extrêmement festif. Mais grosso modo, c'est pas un si bon album que ça. C'est sa période qui, moi, me fait penser à de la barbe à papa. T'en manges, ça donne rien pantoute, mais c'est quand même le fun.
Ouais.
Ça me fait penser beaucoup à ça. Ensuite, on a Tonight, un album qui beaucoup de reggae, la musique un peu crooner, quand même rock. Bravo, high five. C'est pas... Ça moins bien vieilli, selon moi. Alors, je l'écoute, puis je suis comme, mais j'ai hâte de passer à autre chose. On arrive à Never Let Me Down, 1986.
Oui.
Un album qui, moi, en tant que la meilleure amie de David Bowie, vu que je vis, je respire, je le mange, je me sens presque mal de l'écouter parce que cet album-là, il l'a remis. C'est son album le plus mauvais. Donc, je l'écoute et je suis extrêmement mal à l'aise. J'ai l'impression de regarder l'historique de recherche de mon ami sur son iPhone. Je suis vraiment, vraiment mal à l'aise. Mais je l'écoute quand même. J'ai hâte d'avoir terminé ses plats. Ensuite, on arrive à la période Thin Machine. Il n'y a pas beaucoup enregistré. On revient avec David Bowie. Black Tie, White Noise. C'est un album, à ma première écoute, que j'ai beaucoup aimé. À ma deuxième écoute, que j'ai détesté. J'ai trouvé vraiment plat. Ouais, j'avais
hâte. C'était produit par Nile Rodgers, qui est le gars de Chic.
Oui, et je... c'est pertinent. Ma première écoute, j'ai beaucoup aimé ça, la deuxième écoute, je trouvais ça plate, mais c'était un moment où ça me tentait plus. Mm-hmm. J'étais tannée, j'avais envie d'écouter du rap. Par contre, deuxième partie de l'album, j'avais pas terminé, et une belle journée, je me promène dehors, je vais dans un café, je continue mon écoute, et je recommence à écouter Black Tie White Noise, et c'est la chanson I Feel Free. Tu sais, ce sentiment, il fait beau, tu marches dehors, t'as enlevé tes bottes, puis là, il y a une chanson qui dit I Feel Free, puis t'es comme ah yes, moi aussi, ça donne bien. Ben là, je suis dans un moment comme ça, ça me redonne une autre allée. Un air d'allée qui s'arrête tout de suite avec The Buddha of Suburbia, qui est extrêmement plate, qui est formidablement plate, selon moi, encore une fois. C'est un album qui a été composé comme musique de film, un film qui n'a jamais vraiment existé. Donc, selon moi, c'est plate, mais tu écoutes le pareil.
Bien sûr.
Ensuite, on arrive à Outside. Outside, qui est un album, c'est le retour de Brian Eno dans le travail avec David Bowie. Des très bonnes chansons. C'est un album que je trouve assez cinématographique, qui s'écoute bien dans un tout, qui s'écoute bien avec ambiance, mais qui a très peu de hits. Earthling, Allo, Nine Inch Nails.
Moi, je me rappelle quand j'étais adolescente, quand c'est sorti, puis j'avais tellement l'impression.
Et c'est formidable.
Que ben, c'est comme un vieux rocker qui essaye d'être à la mode. Là.
Vraiment.
C'est très injuste en disant ça.
Mais non, mais c'est 97, hein?
Oui.
Ça fonctionne, mais en même temps, c'est quand même bien fait. Il y a quelque chose dans l'espèce d'industriel. Ouais, mais dans l'industriel qui est quand même bien fait, qui est quand même intéressant. Mais t'écoutes ça, puis alors que plus tôt, j'écoutais les albums, j'entendais des influences, je me disais, c'est impossible que ça soit cette année-là. Je veux dire, c'est 15 ans, c'est 10 ans trop tôt. Mais là, j'écoute ça, puis je suis comme, 5 ans trop tôt. Oui.
C'est drôle parce que pour Earthling, je me rappelle d'avoir été au secondaire quand ça arrivait. J'étais comme dans une drôle de crowd d'électro-acoustique avant de venir, tu sais, des gars comme Jérôme, Guillaume, tout. Puis je me rappelle, c'est drôle parce que c'est exactement l'inverse. Eux autres, ils étaient Aphex Twin, tu sais, c'était Square Pusher, puis bref. Puis Earthling est sorti, puis en fait, comme, ah, le monsieur de presque 50 ans vient donner la fessée, tu sais.
Ouais.
Comme, oups, ben, ouais. Mais...
C'est intéressant parce que je pense que je peux l'entendre, ça, mais en rétrospective, tu dis, ah ben, tu sais, il a repris quand même, c'était jamais arrivé ou presque qu'il embarque dans un courant.
Ouais,
puis là,
il suit
un courant. Mm-hmm. Il fait extrêmement bien.
I'm afraid of Americans.
Ben, c'est ça, c'est un album sur beaucoup, c'est une chanson grâce auquel beaucoup des gens de notre génération l'ont découvert. C'est une chanson qui a été un vrai hit. C'est une époque où on regardait des clips à la télé, c'était un vrai hit populaire, mais ça sonne un peu comme quelque chose d'autre et jamais j'avais entendu ça dans ce sens-là. On arrive ensuite à Hours. Hours, c'est intéressant parce que c'est un des plus grands flops. On est en 1999. C'est un des plus grands flops commercial de David Bowie. Et pourtant, c'est le premier album de l'histoire de la musique qui a été disponible en téléchargement avant d'être disponible en copie physique. 1999.
Et tu me rappelles, il y avait une espèce de... pas un hologramme dessus, là, mais un truc que quand tu changes la direction... Il y a une nouvelle vision de la pochette. Là,
comme les comic books de l'époque, comme la mort de Superman, là, vraiment, le foil, tout. Ouais. C'est drôle parce que c'était la mort de David Bowie qui avait sa pochette, je me rappelle.
Oui, c'est David Bowie.
C'est mis en piéta de lui-même.
Oui, c'est David Bowie à la mort de David Bowie. Ça, c'est un album que je trouve assez plate, en fait. Je trouve pas que ça a très bien vieilli. Il y a d'excellentes chansons. Hein. Dans tous les albums, même ceux que je plate, il y a toujours une chanson magnifique. Qui, la plupart des groupes qu'on a écoutés ont même pas fait une aussi bonne chanson que ça dans toute leur carrière.
Mais Hours, ce que je me souviens aussi, c'est que ça revenait beaucoup sur des mélodies, sur des, un sens mélodique qu'il avait développé dans les années 70. Comment vous le fait qu'on le voyait avec Ukita de lui-même, c'est qu'il revenait à son.
Complètement en 95 puis 2003, il s'auto-référence beaucoup. On dirait qu'il vient fermer des vieux dossiers. Je vous ai parlé, le Major Tom, il est mort. Là, il revient beaucoup sur des vieux sujets, il revient beaucoup sur des vieilles mélodies, des vieux riffs. C'est pas tout aussi direct que ça, mais il s'auto-référence beaucoup. C'est une période, on dirait, de beaucoup de réflexion où je pense que ça explique aussi pourquoi les gens croyaient qu'après Reality, en 2003, il avait pris sa retraite. Mm-hmm. Son prochain album est 10 ans plus tard, mais parce qu'il avait fermé plein de dossiers musicaux, plein de sujets qu'il avait soulevés, plein d'angles. Il a fermé beaucoup de choses. Il est revenu beaucoup en arrière. Donc, on arrive Eaten et Reality 2002-2003, des albums que je trouve extrêmement bons, mais qui seront pas dans mon lot régulier, comparativement à Earthling, par exemple, que j'ai rajouté dans mon loop de musique pour m'entraîner. Parce que, tu sais, c'est un peu une Nine Inch Nails.
Un petit cœur, là, dans l'image.
Ouais, un cœur. donc, Eaten, Reality, des très bonnes chansons, encore une fois, il y a des riffs formidables. Il retourne aussi à une voix qui me fait penser beaucoup, moi, à la période électrique de Dylan, que je trouve formidable. Je trouve que c'est une voix qui lui va très bien. Dans ses deux derniers albums, il retourne à quelque chose d'un petit peu plus Ziggy Stardust. D'autres vous parleront peut-être aussi de sa voix, mais ça, je trouve ça intéressant aussi de voir au fur et à mesure son cheminement vocal. Une chose que je dois tous vous noter, dans certaines éditions de l'album Reality, il y a un remix, il y a une nouvelle version qu'il a lui-même enregistrée de Rebel Rebel, qui est malade mentale. Okay. C'est de la pure folie. Ça anéantit la version originale. Ben, selon moi, c'est fou. Allez l'écouter comme
Spotify,
YouTube, This. Là. Ouais, c'est vraiment fou la version qui est sur Reality. Ensuite, 2013, surprise, il revient au nouvel album de Next Day. Ça faisait 10 ans, les gens croyaient qu'il avait pris sa retraite, sans qu'ils disent vraiment, mais...
Il avait été malade aussi durant ces 10 ans-là.
Vraiment, puis ses 5 derniers albums ressemblaient vraiment à un testament musical. Il arrive avec The Next Day, encore une fois, de très bonnes chansons. Moi, ça me fait... Il y a la façon dont il chante, certains théories, ça me fait penser un peu à The Doors, mais un peu plus accompli, un peu plus complexe musicalement. C'est super agréable. J'ai vraiment du plaisir en écoutant ça. La première écoute, j'ai arrêté à Black Star, là, puis j'ai bien de la misère à accepter le fait que je sois dans cet album-là. Ça fait 10 jours que j'écoute David Bowie sans arrêt, puis j'ai vraiment de la misère à accepter que je suis à son album que j'avais pas écouté avant qu'il décède. Donc là, je vais devoir écouter en sachant ce qu'il représente. Mm-hmm. On va parler de Black Star plus tard, donc je vais laisser la place à Karl pour en parler. Par contre, c'est un album qui est... c'est intéressant de parler, j'imagine, un peu des chiffres aussi. Hein, c'est un album qui est revenu au numéro 1, qui a ramené tous ses autres albums au numéro 1. Donc, beaucoup de gens auront entendu versus les albums des années 90, étant donné les circonstances. C'est intéressant que ça soit ça qu'on se rappelle, je pense, de la dernière période de David Bowie. Alors, voici mon marathon David Bowie.
Moi, je suis très contente d'avoir entendu ça, parce que c'est comme des petites courtes critiques impressionnistes de chacun des albums. Moi-même, j'ai pas écouté chacun des albums de Bowie, donc...
As-tu écouté l'eau donne... dernièrement?
Non, j'ai pas écouté l'eau dernièrement.
L'eau, oh my God!
Tu m'as donné le goût, là. Ah. Donc, moi, je commence demain.
Excellent.
Bon, Bowie. Merci beaucoup, Valérie.
Merci! Oh.
va continuer en musique avec Mathilde. Oui, c'est aussi qui va nous chanter Changes.
Oui, donc Changes.
Avec un peu moins de groove, mais on va y aller.
Still don't know what I was waiting for. Time was running wild, a million barren streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I tied myself to face me, but I never caught a glimpse of all the other maze. The faker, I'm much too fast to take that test. Changes, turning faces, strange changes. Don't want to be a rich man. Changes, changes. Just gonna have to be a different man. Time may change, but I can't trace time. Watch the ripples change the size. Never leave the stream of woman permanence. So did they flow through my eyes, but still the taste seemed the same. And these children that you spit on, as they try to change their worlds, are immune to your consultation. They're quite aware of what they're going through. Changes, turning faces, strange changes. Don't tell them to grow up and out of it. Changes, changes. Wear your shameless up for an exhibit. Time may change, but you can't trace time. Strange fascination, fascinating. My changes are taking the pace I'm going through. Changes, turning faces, strange changes. Oh, look out, you rock and rollers. Changes. Changes, but pretty soon now you're gonna get older. Time may change, but I can't trace the time. May change me, but I can't trace the time.
Petit bémol par rapport à la présentation que tu as faite tantôt en disant qu'il n'y a aucun cover qui va arriver à la cheville. C'est quand même fantastique ce que tu viens de faire. C'est extraordinaire.
Merci, t'es fin.
Non, mais ça fait ressortir des beautés du texte.
Oui, c'est ça.
C'est une pièce extrêmement émouvante. Pour moi, c'est drôle parce qu'elle est très pop.
Ben c'est ça, puis en fait, c'est des écoutés, puis après, moi, justement, j'écoutais les tunes et tout, t'entends un bon groove, t'entends, tu sais, il y a du swag. Il y a vraiment beaucoup de swag. Fait qu'on dirait que t'oublies d'écouter les paroles, parce que c'est tellement bon, c'est tellement... Fait que je me dis, en les refaisant, y aller plus slow, je trouvais que ça mettait vraiment l'accent sur le texte, qui... Cette chanson-là est merveilleuse. C'est... Le texte est merveilleux.
Oui, exactement.
Je comprends pas l'anglais, c'est plate, mais...
voilà. Ce que tu as dit est extrêmement émouvant sur le passage du sens. C'est... Wow!
Je vais faire un super lien radio. La chanson s'appelle Changes. David Bowie est un artiste qui a beaucoup changé. Et André veut nous parler... de l'humour dans Bowie.
Un autre lien qu'on aurait pu faire, c'est que Mathilde vient de faire un gag, et moi je vais parler de Bowie et d'humour. C'est un peu n'importe quoi. Puis vu que là, il est presque 10 heures, on va commencer avec une blague un peu salace. Alors, était-il une fois les sept nains en voyage au Vatican? Surprise, ils croisent le pape. Alors là, il y a Simplet qui s'approche du pontife, monte sur un petit tabouret et lui chuchote: excuse, mais est-ce qu'il y a des religieuses naines au Vatican? Le pape lui répond que non. Alors là, le Simplet se retourne vers les autres nains qui sont en train de ricaner un peu. Ils se contiennent. Et là, Simplet embarque sur son tabouret et demande au pape: ok, alors est-ce qu'il y a des non-naines en Italie alors? Le pape, non. Simplet un peu